7h47 minutes, vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 102-1. Il y a de ces gens-là, de ces invités-là, vous le savez, que la porte est toujours ouverte pour ces gens-là. On se texte, on s'écrit, on se parle, on jase de comment ça va. Et c'est presque carte blanche. La personne peut passer quand elle veut pour nous jaser du cheminement de la situation XYZ. Je dois vous avouer que j'ai ben hâte au moment où Émilie Arsenault va passer nous voir en studio et qu'on va annoncer de belles et bonnes nouvelles. Il y a eu point de presse hier, donc, Émilie, je prends pour acquis que si on fait un point de presse pour dénoncer que ça bouge pas du côté de l'IVAC, que ça bouge pas du côté de la CAQ, c'est que malheureusement, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles à annoncer ce matin.
Non, effectivement. Non, dans le fond, on va être des milliers de victimes au mois d'octobre, qu'on va se retrouver sans indemnisation de revenus. On n'a pas vraiment de solution parce que c'est une loi, donc on peut pas aller entamer des procédures judiciaires. On sait pas trop vers quoi se tourner, vers qui se tourner. Moi, c'est sûr que mon premier réflexe, ça a été d'appeler mon avocat, Maître Bellemare. Oui. En tout cas, vice-versa. Lui aussi, il m'a contacté pour que j'appuie la cause parce que c'est un homme fantastique qui se donne corps et âme dans cette cause-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on se bat, pour les milliers de victimes qui, en octobre, vont être revictimisés par l'IVAC.
Vous connaissez l'histoire d'Émilie Arsenault. Elle est passée nous jaser. T'sais, ça a été dans les médias. Elle est passée nous voir à quelques reprises aussi. Ses deux enfants qui ont été assassinés il y a 4 ans. Émilie, qu'est-ce qu'on dit? Motadine, OK? Qu'est-ce qu'on dit? Puis tantôt, on en a parlé, les trois ensemble. Qu'est-ce qu'on dit au niveau du gouvernement quand on tente de raisonner avec eux, puis on leur dit, écoutez, on ne peut pas mettre une date de péremption sur le deuil et on ne peut certainement pas mettre dans une même boîte toutes les tragédies et comment les gens gèrent les émotions et le mental de ces tragédies-là. Qu'est-ce qu'on dit au gouvernement?
Bien, moi, honnêtement, là, j'ai commencé ma rencontre en demandant au ministre, toi, demain matin, tes enfants là, sont assassinés. T'es-tu capable de retourner comme ministre dans 3 ans? C'est comme ça que la rencontre a commencé.
Qu'est-ce qu'il a répondu?
Ben, il est comme venu mal parce qu'il s'attendait pas probablement à ce que je lui dise ça.
C'était une bonne question, pour ça.
Ben, tu sais. Puis, tu sais, sa réponse a été vraiment comme, ben, je peux pas me mettre à votre place. Mais exactement. Tu peux pas te mettre à ma place. Donc, t'es qui pour décider que dans 3 ans, je vais être capable d'être debout au travail avec des enfants? Parce que, je le rappelle, mon travail, je suis éducatrice en CPE. Au CPE, où mes enfants allaient.
Exactement. Et là, tu étais dans un processus de retour aux études aussi.
Oui.
Le 14 octobre arrive, tu vas perdre des indemnisations. Tu peux-tu encore continuer ton processus de retour aux études? Parce qu'il y a une question financière à travers ça.
Bien, exactement. C'est tout ça qui entre en compte. J'ai aucune idée. C'est mon avenir est basé sur l'espoir que le ministre entende raison. Puis j'irai même plus loin, et c'est vraiment à François Legault de dire le OK, j'accepte, le Trésor peut donner les fonds pour justement les victimes d'actes criminels graves, que ça aille au-delà du 3 ans, parce que, tu sais, oui, le ministre, c'est sur ces statistiques-là qu'il se base, 90 % du monde retourne au travail en dedans de 3 ans, mais le 10 % qui reste, c'est parce qu'on n'a pas vécu quelque chose de banal, là.
En effet.
Puis c'est nous qui est oublié.
Dans l'ancienne loi, celle de l'IVAC, qui va prendre fin bientôt, il n'y avait pas de deadline.
Non.
Là, juste pour être certain que tout le monde comprenne bien, à partir du 14 octobre, avec la nouvelle loi, c'est rien. Il n'y a plus d'un 0-0, c'est tchao-bye, là.
Exactement. C'est tchao-bye. Ce qu'on peut faire, c'est refaire une nouvelle demande pour un 3 ans supplémentaire. Sauf que ça te prend le fameux lien d'emploi, mais je veux dire, après 104 semaines, selon les normes du travail, t'en as plus de lien d'emploi. Donc, la majorité du monde, ça fait plus que 3 ans, plus que 104 semaines, 2 ans environ, qu'on n'est plus sur le marché du travail. Donc, notre lien d'emploi, on n'en a plus. Fait qu'on peut pas refaire une nouvelle demande.
Émilie, la rencontre était avec le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Qu'est-ce qu'on donne, je veux dire, tu as commencé, tu nous l'as mentionné, là, cette discussion-là, en y mettant un scénario assez raide, mais je pense que c'était la meilleure façon de commencer la discussion. Qu'est-ce qu'on dit du côté de M. Jolin-Barrette par rapport à cette décision-là et la raison qu'on va maintenir cette décision-là du 3 ans?
Bien, c'est vraiment, c'est ça, il s'appuie sur les statistiques du 90%, donc c'est... T'sais, il me l'a mentionné. Il dit, si dans un monde idéal, il dit, j'aurais maintenu ça à vie pour tout le monde, mais il faut qu'il fasse des choix. Donc, lui, il a décidé qu'il faisait ce choix-là, puis qu'il allait de l'avant avec sa réforme, puis qu'il coupait.
Pourquoi on n'est pas capable d'avoir, puis ça, c'est une question qu'on a soulevée tantôt aussi, pourquoi on n'est pas capable, Émilie, d'avoir chez le gouvernement des spécialistes qui rencontrent les victimes de ces tragédies-là et qui décide au cas le cas. Tu sais, je reviens encore à ce que je disais tantôt par rapport à pourquoi on pitch tout dans une même boîte, toutes les tragédies possibles. Pourquoi on peut pas... Pourquoi faute d'argent, faute de personnel, faute de temps, pourquoi on peut pas gérer au cas le cas les différentes tragédies?
Moi, je crois qu'ils ont juste pas pensé. Puis là, la loi est sortie, puis ils veulent pas piler sur leur orgueil. Moi, je crois que c'est vraiment ça parce que je lui ai proposé. J'ai dit, tu peux pas demander, je sais pas, au bout du 3 ans, qu'on voit un spécialiste à chaque année qui te dit non, on n'est pas capable de retourner au travail. Puis il était comme, tu sais, il pense. Puis tu sais, il y a d'autres choses qu'il n'avait pas pensé. Je lui ai parlé de la demande de libération conditionnelle. Dans mon cas, c'est dans 14 ans. Il va avoir le droit de demander une demande de libération conditionnelle. Mais dans 14 ans, pendant ce moment-là, là, tu sais... Lui, il me dit c'est dans longtemps, 14 ans, mais moi, je le vois déjà comme demain. Tu sais, je le sais que dans 14 ans, s'il sort, je ne serai plus en sécurité. Fait que moi, j'y pense tout de suite.
Ouais.
Mais à ce moment-là, quand il va faire sa demande, je le sais que je ne serai pas apte à travailler. Là. Il va falloir que je me prépare puis que je monte un dossier pour vendre le point de pourquoi je ne veux pas qu'il soit en liberté. Mais à ce moment-là, je n'aurai pas d'indemnisation. T'sais. Là aussi, je lui ai proposé, puis... Il l'a pas dit, mais je l'ai vu dans son visage qu'il n'y avait pas pensé pantoute.
Ouais.
Ouais, parce que, en effet, ce moment-là, toute ton énergie va être pour la bataille que tu as livrée à ce que ton ex-conjoint n'ait pas sa liberté conditionnelle.
Exactement. Puis, c'est ça. C'est... je dis pas de me redonner un 3 ans à ce moment-là, mais non, donne-moi au moins un montant, le temps que le processus soit en branle. Là.
T'étais de retour aux études. Pour avoir un nouvel emploi, ça peut pas peser dans la balance. T'sais, parce que je me dis, tu l'as très bien expliqué tantôt, tu sais, hey, je travaillais au CPE que mes enfants étaient, je retournerai pas là. T'sais, je veux dire, émotionnellement, c'est impossible, là, c'est inhumain. Là. Fait que ça peut pas peser dans la balance, ça, de dire, hey, moi, je suis aux études, je suis en train de vouloir faire ma carrière, mais j'ai juste besoin d'un petit peu plus de temps pour y arriver.
Ben, c'est exactement ça que je demande. T'sais, j'ai pas l'intention d'être sur IVAC toute ma vie. Là. Je fais. Présentement, je suis en réadaptation pour apprendre à vivre, parce que c'est complètement ça. J'ai complètement arrêté de vivre il y a 4 ans. Donc, tu sais, c'est pas comme si j'étais dans mon salon à rien faire. Là. Je travaille pour retourner sur le marché du travail, puis je travaille fort. Mais j'ai besoin de plus de temps.
Ouais.
J'ai besoin. Puis, tu sais, je fais des lectures présentement sur le deuil que j'étais pas capable de faire il y a 4 ans. Ça m'a pris 4 ans pour être capable d'en faire une, puis même à là, tu sais, c'est quelques pages par jour, je dirais. Là. Puis c'est présentement, ce que je lis, c'est « Excusez-moi, je suis en deuil » de Jean Monbourquette, qui est un grand spécialiste sur le deuil. Puis même lui, il le mentionne dans son livre, que quand tu vis un deuil, bien souvent, c'est 4 à 5 ans plus tard que tu as besoin d'aide.
OK.
Puis tu vas pas tant chercher de l'aide avant ça.
D'ailleurs, j'allais te demander, Amy, puis tu le sais, on s'est déjà jasé à cette antenne-ci, on s'est déjà jasé personnellement. Je peux même pas imaginer, tu sais, en tant que parent, je peux même pas imaginer ce que tu as vécu, ce que tu vis encore. À quel point, toi, tu vois ça comme un coup de pelle d'en face, qu'on vienne pas t'aider à bien être capable de gérer ce deuil-là. Tu sais ce que je veux dire? À quel point, toi, ça te coupe les ailes, que c'est un coup de pelle dans la face, que t'essayes de te remettre sur pied, que t'essayes de revivre au quotidien de façon, puis je le mets vraiment de guillemets, de façon normale. À quel point ce genre de décision-là, ça fait mal?
Il n'y a même pas de mots pour le dire, à quel point ça fait mal. C'est complètement j'ai été victime de mon agresseur, puis là, je suis victime de l'IVAC. C'est complètement ça. C'est victime à nouveau. Il n'y a rien d'autre que ça. Puis je faisais la comparaison avec Maître Bellemare hier, puis je lui disais, tu sais, c'est qui la victime? C'est moi ou c'est mon agresseur pour qui on va payer toute sa vie, lui? Tandis que moi, 3 ans,
c'est un bon point.
Guéri, t'es correct après 3 ans.
Qu'est-ce que ça te fait, justement, d'être victime à nouveau? Puis là, ma question va peut-être être difficile, là, je m'excuse, là, mais t'es, en dedans, ça te fait survivre des moments vraiment difficiles où tu te dis, bon, je suis rendu à ma 4e année, je suis capable de cheminer là-dedans. T'es, comment ça file en dedans? Là? C'est quoi la boule que tu vis présentement?
C'est vraiment, tu sais, c'est le stress financier. Là, c'est, je vois les factures rentrer, puis je me dis, au mois d'octobre, je ne serai plus capable de payer ces factures-là. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vraiment du néant. Puis encore une fois, c'est pour ça que je sors des médias, parce que c'est l'espoir. L'espoir que le gouvernement nous entende, puis qu'il entende raison.
Ben justement, penses-tu que ça va bouger? Penses-tu qu'il y a une chance? As-tu un minimum de confiance où tu te dis, voyons, s'ils n'entendent pas ce qu'on dit depuis des mois, ils n'entendront jamais?
Je sais pas. Pour vrai, je me dis, si je le fais pas, ben, c'est un peu comme quand on... Vous avez sûrement entendu l'expression « si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer ».
Ouais.
Ouais.
Bon, mais regarde, je me suis battue. J'accepterai ce qui va arriver au mois d'octobre s'il n'y a rien qui a changé, mais au moins, je vais avoir fait l'effort qui arrive, t'sais, d'essayer de faire quelque chose.
Puis, Émilie, tu t'accroches à quoi pour l'espoir dans cette situation-là?
Je sais pas à quoi m'accrocher. Je m'accroche à Maître Bellemare, je pense.
Parle-nous-en donc, justement, de Maître Bellemare. Tu l'as décrit, tu as dit hey, « c'est un homme exceptionnel, je l'inquiète ». Comment il prend soin de vous? Là, ça doit être ça doit justement relever quasiment du miracle.
C'est un petit papa, pour vrai. Là, ouais. J'ai pas d'autre mot que ça. Il est très paternel. C'est il m'a pris sous son aile. Puis, j'ai rien d'autre à dire que ça.
Habituellement, le Maître Bellemare qui est lundi soir avec Marceau, ça, d'après moi, j'ai comme un petit feeling que ça va être le sujet de discussion ce soir.
Me l'a pas mal confirmé.
Ouais.
Ouais, c'est ça, exactement.
Tu peux t'accrocher à nous. Tu le sais, Émilie Arsenault, on le dit, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, puis je lance pas ça gratuitement. Tu nous fais signe quand tu as des sorties dans les médias, tu viens nous jaser. On souhaite juste que les choses se placent. Moi, ça me jette sur le cul de savoir qu'on pitche toutes sortes de tragédies. Puis la façon que ces victimes-là vont gérer avec les tragédies dans un même sac, puis on dit voici la date de péremption, puis arrangez-vous avec votre deuil. N'importe quand. Quand tu veux jaser, tu le sais, on est là pour toi. Puis en souhaitant, je l'ai dit d'entrée de jeu, je le dis en conclusion, j'ai hâte à cette journée-là, parce que je veux pas juste que tu viennes nous parler de moments difficiles ou de moins bonnes nouvelles, mais cette journée-là où tu vas nous texter et dire « Hey, la gang, ça a bougé, puis j'aimerais ça venir vous parler de façon positive de la suite des choses », ben j'ai hâte à cette journée-là.
Ben j'espère, puis j'espère que ça va se faire bientôt.
On garde espoir avec toi.
Nous autres aussi, on est avec toi. Merci, Émilie.
Merci.
À bientôt. Red.